QUB. Du front, des idées, du cran.
Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue.
Pour comprendre le monde qui vous entoure.
Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres.
Bon matin, bienvenue à Cube Radio. Une voix différente ce matin, oui, parce que je suis Alexandre Moranville. Je remplace Alexandre Dubé d'un Alexandre à l'autre. Ce sera pas trop mélangeant ce matin. Lui qui sera de retour là, dès demain à la barre de l'émission matinale. Plusieurs nouvelles, beaucoup d'actualités aujourd'hui à couvrir. Des nouvelles plus le fun. Hein? Ça fait toujours du bien dans les médias quand on peut se lever puis pas être enragé contre deux tiers des nouvelles que vous allez lire dans les journaux. Histoire de nos collègues du Journal de Montréal sur une femme, Monique Beaupré, qui vit avec le rein de 92 ans de son frère. Là. A reçu une greffe de rein il y a des décennies. Puis maintenant, ben, défie à peu près tous les pronostics. Hein, on le sait, quand on subit une greffe, règle générale, on pense qu'il y a un compte à rebours autour de tout ça, que la vie, on vit sur du temps emprunté. Mais là, magnifique histoire. Sincèrement, ça nous met le sourire dans le visage quand on lit les nouvelles le matin. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ce genre de nouvelles-là, parce que le reste, ben, ça a quoi nous mettre en beau maudit aujourd'hui. En beau maudit. Si je regarde, par exemple... Une des nouvelles rapportées par la presse, une enquête aujourd'hui sur la DPJ. Tiens, un autre dossier sur la Direction de la protection de la jeunesse au Québec. Ici à Cube, nos collègues, entre autres Florence Lamoureux, qui a poussé là, toutes sortes d'enquêtes sur de l'aliénation parentale au sein de la DPJ. Nos collègues du Journal de Montréal qui rapportent là, constamment aussi toutes sortes de scoops sur la DPJ. La semaine dernière, il y avait encore une nouvelle qui expliquait que nos jeunes de la DPJ, les ex-enfants de la DPJ, ont un taux de diplomation qui est famélique. On parle de 37 % seulement des jeunes de 21 ans qui ont été auprès de la DPJ, qui ont leur diplôme d'études secondaires. On parle du tiers des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de scolarité réelle après avoir été placés à la DPJ. Déjà ça, le fait qu'on ait des nouvelles comme ça la semaine dernière, à peine de son ou d'image du côté du ministre qui est responsable des services sociaux, Lionel Carman, et de la santé mentale, moi, je trouve ça toujours inquiétant. C'est un ministre qui, on nous dit dans les coulisses, là, est absolument là, humain, empathique, qui veut absolument maîtriser ses dossiers, être capable de pousser ça loin. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on entend et ce qu'on peut voir. Il n'y a pas de suivi qui est fait. Il y a un rapport, le rapport Laurent, qui a été produit à la suite d'une tragédie, parce que c'est évidemment toujours à la suite d'une tragédie. C'est toujours à la suite d'un truc épouvantable qu'on finit par se mettre à agir. Puis là, nouvelle enquête qui paraît dans la presse. En 2004, une adolescente qui dénonce les gens qui l'hébergent, la famille d'accueil, en disant qu'elle se fait agresser sexuellement de multiples reprises par celui qui est censé être le père de famille où elle est logée. On ne la croit pas. Je comprends qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait depuis des années au sein de reconnaître les crimes sexuels, de croire les victimes, d'adapter nos tribunaux puis nos mécanismes pour réagir plus rapidement à tout ça. Le problème, c'est que ça a pris jusqu'en 2021. Une autre accusation. Et là, cette fois-ci, on a décidé d'arrêter d'envoyer des enfants-là. Sur une période de 16 ans, il y a eu 70 jeunes, 70 enfants qui ont été envoyés dans cette famille. Puis on parle de 6 victimes. Il y a au moins 8 agresseurs et présumés agresseurs parce que le climat dans la maison, croyez-le ou non, créait de l'agression sexuelle auprès des autres jeunes qui étaient sur place. C'est des histoires d'horreur. Mais j'ai l'impression, malheureusement, qu'on va en rester là. Il y a, je veux dire, t'as une nouvelle qui dit que t'as le tiers des jeunes dans ton système de protection de la jeunesse. C'est ça les mots qui sont employés pour ce système-là. Tu te rends compte que ces jeunes-là, ben, ils grandissent. OK, félicitations, t'as réussi ta mission de les faire survivre jusqu'à l'âge adulte. Mais après ça, ils sont largués. C'est pas normal qu'on ait ces taux-là. C'est pas normal qu'il y ait des jeunes qui soient pas crus. C'est pas normal que nos installations soient désuètes un peu partout au Québec. C'est pas normal. Honnêtement, j'attends plus de proactivité de la part du ministre qui est responsable de tout ça. Je m'attends, là, je le sais que le travail là, des employés de la DPJ est pas facile. Puis ça dure depuis toujours. Ma grand-mère a été intervenante pour la DPJ. Les problèmes qu'elle dénonce, qu'elle dénonçait à l'époque, c'est les mêmes qu'on entend encore aujourd'hui. Ça fait des décennies. Sincèrement, j'ai hâte que quelqu'un décide de se mettre les mains là-dedans puis d'être capable d'aller adapter notre système à la modernité. Parce que sérieusement, on peut pas être une société qui se dit progressiste, moderne, si on n'est pas capable d'accompagner nos enfants puis de les amener à l'âge adulte pour avoir un peu de succès et de chance d'envie. Sérieusement, moi, ça me vire à l'envers des nouvelles comme ça. Regardons, on va passer à une autre nouvelle qui, elle aussi, est absurde, est absolument choquante, mais comme tellement absurde que ça, c'est presque drôle. Là, on est en 2024. Vous vous dites, ah, waouh, monde progressiste, il y a des débats qui font rage sur toutes sortes d'enjeux sociaux, sur toutes sortes d'enjeux mondiaux. Mais il me semble qu'il y a des choses aussi qui sont acquises. Ça fait assez longtemps qu'on débat que, à un certain moment donné, on se dit, ah, c'est des dossiers réglés, tout ça. Mais pas pour le Parti conservateur du Canada. Non, monsieur. Eux, ils ont décidé qu'ils allaient s'attaquer à la cause la plus importante là, de la décennie. Une cause qu'on croyait réglée, mais eux vont réouvrir ce dossier-là parce qu'on veut aller sauver cet élément crucial de la société canadienne, un pilier de notre culture, la paille en plastique. Là, je fais pas des blagues. Pétition au lendemain du jour de la Terre, porté par le Parti conservateur du Canada pour sauver la paille de plastique. Tu sais, y a-tu des gens dans la rue, pour vrai, là, qui sont en beau maudit parce que sont obligés de boire avec des pailles en carton au McDo? En espèce, c'est mou, puis ça fond dans la bouche. Prends-toi-en une deuxième, une troisième, une cinquième. Les cinq pailles en carton que tu vas consommer vont être moins dommageables pour l'environnement que ta paille en plastique qui prend 1000 ans minimum à se décomposer. Me semble qu'en 2024, c'est comme, tu sais, le gros bon sens, comme dirait M. Poilievre, le gros bon sens. Puis en plus, il ose accoler l'étiquette du gros bon sens en parlant de tout ça. Mettre fin à l'interdiction des pailles en plastique en votant pour notre projet de loi est un geste qui fait preuve de gros bon sens. Hey, je m'excuse, mais c'est l'opposé complet, du gros bon sens. Une belle grosse connerie. On va vous dire ce que c'est, ça. Belle grosse connerie. Pas gros bon sens. Honnêtement, les mots me manquent. Il y a tellement d'enjeux qui sont importants, puis après ça, il y a une élection qui s'en vient. Le Parti libéral de Justin Trudeau n'est pas très populaire en ce moment. Dans les sondages, le Parti conservateur du Canada continue de monter, puis à Poilievre, une belle lancée en ce moment. Puis écoutez, peut-être que sur toutes sortes d'enjeux, le Parti conservateur du Canada va rejoindre vos valeurs, va rejoindre vos idéaux, va rejoindre les promesses électorales que vous aimez entendre. Mais j'aimerais qu'on se pose une question. Est-ce que vous faites confiance à un parti politique qui se porte au pouvoir avec une de ses missions, remettre les pailles de plastique, parce que ça, c'est vraiment le gros bon sens, puis c'est vraiment mauditement important. Pensez-vous qu'un gouvernement qui fait ça, qu'un parti qui fait ça, là, qui en fait une priorité, est digne de confiance d'être capable de mener des politiques pour combattre les changements climatiques, mener au bien de l'environnement? Moi, j'en doute. Moi, j'en doute là, très, très fortement. Puis je sais que je ferais vraiment la cassette brisée avec tout ça. Mais je rappelle un fait sur le Parti conservateur du Canada. Un parti principal qui pourrait gagner des élections ici, en 2024. 2021, Erin O'Toole, ancien chef du Parti conservateur du Canada, vient devant ses militants et avec un de ses députés québécois propose une motion. Attention, là, c'est radical. Reconnaître l'existence des changements climatiques. Juste dire, ah oui, c'est vrai, ça existe. Ça a été battu à 54%. Ça a été battu. Il y a plus de députés au sein de ce parti-là, un parti sérieux et majeur qui est l'opposition officielle d'un pays du G7 en 2024. Ouf! Je reconnais que les changements climatiques, que ça existe, c'est trop. Hey, ramenons les pailles de plastique, tant qu'à faire. Hein. Ça, c'est dans le cœur de tous les Canadiens et les Canadiennes. Le vrai gros bon sens, c'est ça que ça nous prend. Regardez, moi, sincèrement, n'importe qui perdrait sa crédibilité au grand complet en proposant des mesures comme ça. Mais dans ce cas-ci, ben, c'est le parti, peut-être, de notre futur premier ministre du Canada. Tout va bien ce matin. Bienvenue à Cube Radio.